Et donc Jésus est abandonné, il est livré par ses disciples. Et c'est comme ça qu'il est exécuté. C'est ce dont témoignent les quatre évangiles unanimes. Mais c'est ce dont parlent aussi les pharisiens, donc à l'époque les opposants à Jésus qui ne l'ont pas reconnu comme Christ. C'est ce qu'on trouve dans le Talmud de Babylone. Il est marqué « Yeshoua fut pendu la veille de Pâques. 40 jours avant, on avait annoncé dans la ville sa condamnation. Il s'en va à la lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et qu'il a égaré Israël, le conduisant à rejeter Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il vienne et le dise. Mais comme personne ne se présenta, n'ayant rien en sa faveur, il fut pendu la veille de Pâques. » Donc vous voyez, ça correspond à peu près. Jésus est pendu à la croix par les Romains, parce que c'était un supplice romain, présenté comme coupable et abandonné par ses disciples. Alors ça s'est passé comme ça. Et les évangiles en portent le récit, ce qui n'est pas facile, puisque c'est écrit justement par ces apôtres, ces premiers chrétiens, à peine quelques dizaines d'années après les événements que tout le monde connaissait par là-bas. Ensuite, comme toujours, avec les évangiles, ils font en sorte que cette histoire qu'ils racontent, qu'ils mettent par écrit, nous apporte un sujet de réflexion qui soit porteur de sens, porteur de vie pour nous, maintenant, pour le lecteur. Alors, à propos de cette histoire de la trahison de Jésus par Judas en particulier, les évangiles le font de différentes façons. Regardons comment les évangiles présentent Judas. Alors, Judas est la figure du méchant, c'est l'interprétation la plus classique que l'on retrouve dans l'évangile selon Jean. Jean, il ajoute que Judas, il volait dans la caisse que Jésus avait pour aider les pauvres qu'il rencontrait. C'est donc qu'il n'était pas si pauvre que ça lui-même d'ailleurs. Et Jean dit que Jésus savait très bien que Judas était un méchant. En effet, voilà ce que dit Jean. Jésus dit aux apôtres, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze, nous dit Jean. C'est manifestement exagéré de qualifier qui que ce soit vivant au monde de diable. Aucune personne humaine, bien sûr, n'est parfaite. Même Jésus refuse qu'on l'appelle bon, disant qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Et puis aucune personne n'est bien sûr le mal incarné à 100% méchante. Bon, parfois 99%, d'accord, mais quand même 100%, c'est un peu abusé. C'est pourquoi chaque fois que la Bible dit qu'une personne serait parfaite ou qu'une personne serait le diable incarné, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Eh bien, c'est qu'elle présente des types. Elle présente notre côté gentil, où elle présente notre côté méchant, à nous tous. Et donc on est concerné par les deux. C'est ainsi que Judas est, dans l'évangile selon Jean, la figure du méchant. Et que cela concerne pas simplement Monsieur Judas historique, mais que ça concerne toute personne vivant au monde. Alors c'est loin de vouloir nous culpabiliser, car Jean dit aussi que Jésus a choisi Judas en connaissance de cause. Il l'a choisi, il l'a accompagné, il l'a accueilli à sa table et il l'a même donné mission. Cette lecture nous dit que même ce qui est diable en nous est accueilli par Dieu, appelé, choisi, aimé par Dieu, accueilli à sa table. En effet, c'est comme ça qu'on aime, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on aime tel ou tel mauvais côté de telle personne qu'on aime. Mais aimer, c'est aimer la personne telle qu'elle est. Ce n'est pas aimer la personne telle qu'on rêverait qu'elle devienne parfaite. C'est cette façon d'aimer que Dieu a pour nous, bien sûr. C'est ce que disait déjà l'histoire du déluge, donc, dans le début du livre de la Genèse, Cette histoire se conclut sur le fait que Dieu choisisse d'aimer l'humain tel qu'il est. Dieu dit, je sais bien que l'humain respire la violence, et bien je vais l'aimer comme il est. Voilà, je ferai au mieux avec la personne humaine telle qu'elle est. Alors c'est vrai que nous avons parfois un léger petit côté diabolique, mais Dieu choisit de nous aimer comme nous sommes et de nous appeler quand même et de nous accompagner et de nous nourrir. Et c'est ainsi, nous dit l'Évangile, que Judas fait partie des 12. Or, ce nombre de 12, ça évoque dans la Bible l'humanité complète. L'humanité bénie par Dieu même, faisant un peuple, un corps, une humanité entière. Et donc, c'est pas que ça nous fasse plaisir de voir Judas parmi les 12. On rêve bien sûr d'une humanité parfaite, et c'est bien ce qu'il faut faire. Mais en continuant à aimer l'humanité telle qu'elle est, voilà, telle qu'elle est aujourd'hui, et en prendre soin et continuer à l'appeler comme Jésus le fait pour Judas. Parce qu'aimer, c'est ça. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à aimer l'humanité, à aimer les autres, mais aussi déjà à nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Parce que c'est à partir de là, à partir de ce que nous sommes aujourd'hui, que nous pourrons avancer vers un mieux, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que c'est jamais très facile d'avancer. C'est pourquoi Christ appelle aussi Judas, bien sûr, le nourrit à sa table et lui confie des responsabilités. Cette histoire nous dit que nous ne serons donc jamais si nuls que Dieu en ait assez et qu'il nous abandonne. Il continue à nous entourer pour que nous avancions. Alors c'est une première leçon possible. Judas incarne le mauvais côté de l'humanité et de chacun. Et il existe d'autres prédications intéressantes données par d'autres évangiles à partir de ce personnage historique de Judas. Luc dit à deux reprises que Judas était au début un apôtre comme les autres, et qu'à un certain moment, il a changé. Luc nous dit que Judas devint traître, et qu'à un moment, Satan entra dans Judas Iscariote, qui faisait partie des 12. Et donc Judas, comme les autres apôtres, et comme quelques femmes qui accompagnaient Jésus et les apôtres, Judas avait choisi de suivre Jésus dans son travail de Messie. C'était loin d'être évident. Cela demande du courage, de quitter sa petite vie tranquille, de changer de vie ainsi pour suivre Jésus, avec ce projet de faire une différence dans le cours du monde pour que ça progresse. 3 années de cheminement inattendu, de poussière, de soleil, de dormir dehors, de dormir dans des maisons à gauche ou à droite. 3 années avant que Judas ne change en sens inverse. Luc insiste souvent, alors pour le Judas, mais aussi dans d'autres occasions, sur la liberté que Dieu nous donne. Dieu compte sur chacun, Dieu appelle chacun, il suggère, il souffle son esprit, mais Dieu ne peut obliger personne, bien sûr. Alors de multiples chemins sont ouverts devant chacun de nous à chaque moment. Dieu ajoute encore de nouvelles possibilités. Nous avons de multiples pensées en nous-mêmes. Nous avons même la possibilité de ne pas penser. Nous avons sans cesse un certain choix. Même ne pas choisir est un choix. Le choix de laisser d'autres choisir à notre place, ou le hasard, ou ce qui nous passe par la tête, notre ego, nos hormones, nos peurs, nos envies. Mais ici, ce qui est vraisemblable, c'est que ce qui a pris l'emprise sur Judas, c'est son idéologie. Il est dit que Judas était iscariote. On pense qu'il faisait partie de ces activistes potentiellement violents à l'époque qui étaient appelés les sicaires, qui voulaient chasser les Romains avec des attentats divers. Au rameau encore, Judas a dû acclamer Jésus comme roi, espérant qu'il allait prendre le pouvoir, qu'il allait aller au palais du gouverneur pour prendre le pouvoir avec cette armée, cette foule qui l'accompagne. Mais voilà que Jésus, au lieu d'aller au palais du gouverneur, se dirige droit vers le temple de Jérusalem afin d'appeler chacun à prier directement Dieu. Et c'est comme ça que Jésus travaille à changer le monde vers le mieux, en cherchant à élever le niveau de conscience de chacun, à le libérer, à lui donner de la force, en le reconnectant directement avec Dieu. Avec, bien sûr, cette façon de présenter Judas, nous sommes, je pense, appelés à ne pas nous laisser capturer par les idéologies, mais à avoir plutôt de l'idéal, nous forger notre propre capacité à agir en étant connectés avec Dieu. Ensuite, je vois une troisième possibilité explorée par les évangiles pour saisir ce personnage de Judas. L'évangile selon Marc, il ne dit pas que Judas serait méchant, il ne dit pas que Judas aurait tourné mal parce qu'il se serait laissé embrumer la tête par des idéologies, mais Marc dit simplement que Judas a livré Jésus. Il le dit même à 7 reprises, Judas a livré Jésus, Judas a livré Jésus, dans ce seul passage de l'évangile que je vous ai lu. Or, ce verbe « livrer », il est ambigu. « Livrer », c'est dénoncer une personne à ses poursuivants, et « livrer », c'est aussi apporter un colis, comme quand Jésus dit que toutes choses m'ont été livrées par le Père, qui lui a donné donc sa parole, son esprit. Et donc, le choix de ce verbe ambigu laisse supposer que Judas a livré Jésus dans les deux sens du terme. Et c'est effectivement possible. Il a livré Jésus au sens où il l'a mis en contact avec les autorités qui le recherchaient, et il a livré Jésus avec l'idée que, une fois les présentations faites entre Jésus et les autorités religieuses, Dieu saurait bien aider ces autorités à saisir que Jésus est porteur du salut pour le monde. Alors c'est ce que Jésus explique d'ailleurs dans une parabole. Il explique que Dieu l'a envoyé, lui, Jésus, vers l'humanité, et que Dieu se disait « Ils respecteront mon fils ». Judas a pu penser aussi que ça marcherait, qu'il allait livrer Jésus aux autorités, et puis que les autorités le recevraient, ils auraient du respect pour Jésus et qu'ils comprendraient que c'est le Fils de Dieu. Alors Dieu, est-ce qu'il a échoué dans ce projet « Ils respecteront mon Fils » Alors nous sommes assemblés aujourd'hui spécialement en mémoire d'un échec à court terme de ce plan, évidemment. Oui. Mais aussi nous sommes rassemblés pour dire que Dieu continue à espérer, continue à agir, continue à nous appeler afin que ce projet « Ils respecteront mon Fils » puisse se réaliser un peu plus chaque jour et que ça soit ainsi un salut pour le monde. Selon cette façon de comprendre, Judas aurait donc été le plus avancé des apôtres de Jésus. Et ce fameux baiser que Judas donne à Jésus, dont parle l'Évangile et qui est si bien représenté dans ce tableau de Giotto qui est sur le livret, eh bien ce baiser, c'était en fait un baiser sur la bouche, c'est pas du tout érotique, c'était un geste solennel entre maître et disciple, comme une transmission en direct de la parole du maître à l'intérieur de nous-mêmes, dans la bouche du disciple. Et donc Judas aurait ainsi été en ligne directe avec Jésus. Et il aurait ainsi cherché à livrer Jésus, à l'apporter au monde pour que Jésus puisse aussi, que chacun puisse être aussi directement en contact avec Jésus, comme lui l'a été. Et donc la façon dont Judas cherche à témoigner de Jésus me semble particulièrement intéressante. Livrer Jésus, ce n'est pas comme livrer une idéologie, si vous voulez, d'enseigner. Livrer Jésus, c'est mettre en contact la personne avec Jésus lui-même, cœur à cœur, bouche à bouche, si on veut. C'est mettre en contact avec Jésus lui-même. Il s'agit de livrer la source et pas simplement le message. De livrer un principe actif, un levain qui fera lever la pâte tout entière. Tel est le Christ. Un principe actif. Le message n'est qu'une préparation à recevoir cela en nous-mêmes et que notre vie en soit changée. Ce qui fait vivre, c'est la foi. C'est une relation avec cette personne qu'est le Christ. Et donc l'objectif de Judas de livrer Jésus serait excellent. C'est ce que pense aussi l'Évangile selon Matthieu, où Jésus appelle Judas « mon ami » et qui lui dit « mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Donc Jésus envoie bien Judas le livrer aux autorités. Et pourtant, il y a cette parole terrible que nous voyons dans l'Évangile où Jésus aurait dit qu'il faut bien que cela soit fait, que quelqu'un le livre, certes, mais que malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme, lui, est livré. Mieux vaudrait que cet homme ne soit pas né. Alors c'est une parole terrible, ça semble être une malédiction, mais ce n'en est absolument pas une. Dans les mots de l'Évangile, ce mot qui est traduit par malheur, c'est le mot grec « waï ». C'est un sanglot de compassion, ce n'est pas une malédiction. Un sanglot de compassion en faveur de Judas qui doit livrer Jésus en pensant qu'ils respecteront le Fils, le Christ, et qui verra pourtant dès le lendemain que grâce à son action, il a envoyé son ami, son maître à la mort. Par avance, Jésus entrevoit la culpabilité insoutenable de Judas. Cela nous dit qu'il y a du tragique dans la passion du Christ. Jésus aime la vie, il veut la vie, la sienne, et embellir aussi la vie de chaque personne vivant au monde. Et Jésus, en choisissant la vie, aura la mort. Judas aurait pris part donc dans ce tragique en endossant le rôle du traître pour cela. Que l'Évangile reconnaisse qu'il y a du tragique dans la vie de ce monde et dans notre vie, je pense que c'est une bonne nouvelle paradoxale. Cela nous dit que Dieu a compassion de nous quand notre vie est compliquée, quand nous avons des choix pas du tout évidents à prendre parce que tous les chemins qui s'ouvrent devant nous sont à la fois tissés de vie et de mort. Dieu le sait, Dieu comprend la complexité de notre existence. Il a compassion de nous et il nous pardonne avant même que nous ayons choisi. Alors qui était le Judas historique? Est-ce que c'est le méchant? Est-ce que c'est le faible? Est-ce que c'est le héros tragique? Par tous ses côtés, il est notre frère, et ces histoires, cet évangile nous dit que Dieu nous vient en aide. Amen.